Le corps courbé sur la feuille, comme s'il souhaitait avant tout se délivrer de ce qu'il avait à dire et qui peut-être le gênait. De temps à autre, il se renversait dans le fond de son fauteuil et promenait son regard sur les machines accrochées au mur, ou bien, ramassant les feuillets déjà écrits, il mettait un peu d'ordre sur sa table avant d'ouvrir devant lui un grand pot à tabac en faïence dans lequel il plongeait la main. Puis, cette opération achevée, il allumait sa pipe en marchant, un peu grisé par l'odeur du lataquié mêlé de Virginie. Ses gestes rituels lui servaient à reprendre pied, à retrouver, même deux ou trois fois par heure, confiance et bonheur de travailler. Certes, il ne se sentait pas écrivain, mais il connaissait le simple plaisir du papier, des petits objets qui servent à l'écriture, des doigts tachés d'encre, des méandres de l'esprit attachés à la feuille. Cet artisanat-là le changeait de l'autre, puis il était anonyme. Écrire sur la médecine, ce n'était pas écrire. Il n'était d'ailleurs pas sûr de vouloir signer. Sur les quais, découvrait-il un livre d'auteur inconnu, il était pris d'un élan d'affection par-delà les années. « Bien d'accord, mon vieux, ça n'en vaut pas la peine, c'est trop plat à la fin, ces noms et ces visages. » 2 heures avant la visite du matin, l'hôpital s'éveillait. On entendait rouler les chariots d'approvisionnement. Sortant de la torpeur de la nuit, les malades appelaient. Une puis deux, trois ou 10 voix se joignaient dans un concert plaintif. En revenant de la messe, les sœurs prenaient leur service, les plus âgées instruisant les plus jeunes. Pierre entendit à travers la porte la voix forte, étrangement forte de Lacombe ordonnant qu'on débarrassât le couloir des ballots de linge qui gênaient la circulation. Une saute de vent fit trembler les fenêtres. Le ciel était couvert. En roulant sous la lampe un gros livre de chirurgie, Pierre pensa avec satisfaction à l'arrivée de l'automne. L'été, les grandes chaleurs augmentaient encore l'insalubrité et diffusaient la pourriture d'hôpital, ainsi nommait-on la gangrène. En parcourant l'instruction au chirurgien de Dominique Larrey, Augustin trouva le passage qu'il cherchait. Avec un soupir, il recopia ses lignes écrites pendant l'expédition d'Égypte, quelque part du côté de Jaffa. Pour le chirurgien qui pense et qui opère, il doit mettre beaucoup de dextérité et de vitesse, s'abstenir le plus possible de toucher par aucune partie de son corps celle du malade, son lit ou ses vêtements, et en faisant le pansement, il doit tremper souvent ses mains dans le vinaigre dont il faut qu'il ait toujours une certaine quantité avec lui. Il doit en arroser le lit du malade, et autant que possible toutes les parties environnantes. Il doit se retirer le plus promptement possible, se laver de nouveau avec la même liqueur les mains, le visage et toutes les parties exposées au contact de l'air. Au sortir de l'hôpital, il faut quitter promptement sa tunique, la passer à l'eau et l'exposer à l'air, comme sa chaussure, changer tous les vêtements, en mettre de nouveaux qui auront été promptement exposés à l'air, laver ses instruments avant de sortir de l'hôpital avec de l'eau de vie et les placer dans un endroit aéré, faire brûler au fur et à mesure tous les linges et charpies qui auront servi au pansement, enfin ordonner que toutes les fenêtres des salles soient constamment ouvertes, et qu'on y maintienne la plus grande propreté. C'étaient de belles pages, plus fermes, plus nettes que celles de beaucoup d'ouvrages littéraires. Ils sont peu nombreux ceux qui tiennent à côté, pensa Augustin. Stendhal, c'est sûr, Montaigne aussi. Ayant copié, Pierre commenta les propos de Larrey. On en retrouvait, sauf pour la transmission des infections par l'air, les cochers s'en mêlouaient. Un siècle avait passé et cet âne de Desprez vantait encore les vertus des pansements sales. Pierre ralluma sa pipe. Il était quand même étonnant que Larrey, entre les Mamelouks, les Cosaques, les commissaires des guerres et l'empereur, ait toujours pris le temps de se laver les mains avant d'opérer, et que ses ablutions soient jugées impossibles par les contemporains. L'impatience le saisit, et il coucha sur le papier quelques phrases vengeresses. La porte s'ouvrit sur Lacombe qui parut surpris de le voir. « Excusez-moi, je ne vous savais pas là, de si bonne heure, la garde s'est bien passée. » Pierre à regret lâcha le fil de son raisonnement. Lacombe contourna le bureau. « Pardonnez mon indiscrétion, c'est votre travail sur la zepsie. » « Oui, » répondit Pierre qui ne désirait pas en dire plus. L'attitude ambiguë de son chef là-dessus l'irritait un peu. Lacombe, en théorie, partageait les vues de l'agrégé, mais sa prudence naturelle, cette attitude d'abstention volontaire qu'il semblait adopter en face de toute question d'importance, le conduisait à ne jamais le dire, surtout en présence d'Alcossé. Pierre se leva et enfila sa blouse pour la visite. Lacombe le regardait en coin, gêné par ce mutisme dont il devinait la raison. « Et, puis-je vous demander ce que vous comptez en faire ? J'ai trouvé un prête-nom à l'académie. Il lira une communication. Et qui prendra ce risque ? Oh, j'ai déniché le sujet idéal. » C'est un élève d'Hippolyte Larrey, confie en dévotion devant la famille. J'ai réussi à le persuader que Larrey père était un précurseur de Saint-Méloué. Et puis c'est un ancien militaire, il en a vu d'autres. Ça, entre le ricanement des académiciens et le sifflement des balles, je ne saurais vraiment pas quoi choisir. Mais ni l'un ni l'autre, cher ami, ni l'un ni l'autre, ironisa Pierre en lui tapant familièrement l'épaule. Lacombe ne le prit pas mal, ils montèrent l'escalier. Saint-Méloué, dit Lacombe, ça a mal fini. Il s'est coupé le doigt pour finir. La gangrène, vous voyez ça, on est puni. J'y pense, je vous enverrai Destouches, je veux bien qu'il y ait Destouches.